Je voudrais vous inviter à lire dans les Actes, au chapitre 2. Actes, chapitre 2. Et le titre de ce message était très simple. Et j'espère qu'il nous parlera déjà. Quatre bases pour une église bénie. Est-ce que vous voulez que l'église soit bénie? Est-ce que vous voulez que Dieu ajoute des âmes? Je crois que c'est des questions qui tombent sous le sens. Les réponses surtout qui tombent sous le sens. Et vous savez que dans Actes chapitre 2, nous voyons une église qui a été bénie. Nous voyons d'ailleurs le début de l'église et de quelle manière cette église a pu être bénie. Mais avant qu'il puisse y avoir cette bénédiction de Dieu sur l'église, il a fallu qu'il y ait le fondement, la base primordiale de cette œuvre, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Je ne fais que vous rappeler ce qui s'est passé quelques jours avant. Jésus a été crucifié pour le pardon des pécheurs. Il a été mis au tombeau, mais il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité et pendant 40 jours, il s'est manifesté à ses disciples. Et pendant 40 jours, il a prié Dieu qu'il puisse ouvrir l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent le sens de ce sacrifice, afin qu'ils comprennent, ses disciples, que s'il y avait bien quelque chose qu'il fallait bâtir, ça ne devait se baser que sur la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Et à un moment donné, il a été enlevé, il est monté vers le Père, il s'est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est dit qu'il intercède en notre faveur. Ça vous rassure pas de savoir que Jésus, en ce moment, est en train de prier? Combien je suis rassuré, moi, déjà, mais je suis aussi très heureux avec mon épouse de pouvoir être au milieu de vous, de pouvoir servir le Seigneur. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus peut bâtir son église pas seulement parce qu'il a donné sa vie et parce qu'il est ressuscité, mais aussi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont accepté ce message, qui ont été remplis de l'Esprit, qui ont choisi de mettre leur vie tout entière entre les mains du Seigneur afin de pouvoir être utile. Est-ce que je parle que des pasteurs? Non, je parle de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, c'est ça que nous avons fait. Nous avons mis nos vies entre les mains de Dieu et nous avons demandé au Seigneur qu'il puisse nous remplir de l'Esprit. Dans Actes chapitre 2, ça nous raconte ce moment où ils étaient là tous ensemble dans le même lieu en train de prier, d'implorer Dieu qu'il puisse accomplir sa promesse. Ils sont remplis de l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, rempli du Saint-Esprit, commence à prêcher sous l'onction de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse que le pasteur puisse avoir l'onction de Dieu? Vous voulez juste un message bien carré, assez court, comme ça vous avez entendu ce qu'il vous fallait. Qu'est-ce que vous préférez? L'onction. Et moi aussi, je suis le premier à vouloir l'onction. Mais l'onction sur chacun de nous. Parce que quand il y a l'onction de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre a prêché? Il y a eu des gens qui se sont repentis. Il y a eu des gens qui se sont convertis. Il y a eu des baptêmes, des milliers même de baptêmes. Est-ce que c'est pas ça que nous voulons? Regardez avec moi dans ce chapitre, verset 42. C'est merveilleux tout ce qui prend place jusqu'à présent. Mais ça serait comme un feu de paille si on s'arrêtait là. Ça serait comme un feu de paille. C'est beau un feu de paille. Mais qu'est-ce que c'est le problème? C'est que ça dure pas longtemps. Et si on s'était arrêté là dans cette histoire, l'église aurait été seulement un feu de paille. Mais il y a quatre choses. Quatre bases, quatre fondements qui ont été faites, qui ont marqué cette église, qui ont fait qu'elle a pu prospérer. Et je vais dire, jusqu'à aujourd'hui, cette église a continué de marcher. Parce qu'il y a eu quatre choses qui ont été faites. Regardez le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Un petit verset. Dans la taille, mais dans la profondeur, combien il est grand. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que seulement ce verset peut amener la bénédiction de Dieu sur cette église, sur n'importe quelle église sur cette planète qui choisit de mettre sa foi dans ces quelques paroles? Est-ce que vous le croyez? Oui, parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous a été transmise de manière tellement miraculeuse. Quand on étudie l'histoire de la Bible au cours des siècles, on se rend compte que c'est le seul livre de l'Antiquité qui a été le mieux conservé. Il y en a d'autres livres de l'Antiquité qu'on a entre les mains. Mais celui dont on est le plus sûr du contenu, c'est la Bible. Et le Dieu a pris soin, dans les siècles, de veiller sur sa parole et de permettre qu'elle puisse nous parvenir. Et voilà ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Et ce matin, même si c'est moi qui suis là devant, c'est comme si j'étais assis au milieu de vous et j'écoute la parole du Seigneur avec vous parce que je désire moi-même que l'Église soit bénie et je désire moi-même appliquer ce message, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Voilà ce que je voudrais voir ce matin. Vous êtes d'accord? Mais avant de le voir, je voudrais vous montrer le résultat. Au verset 47, il est dit, à la fin du verset 47, « Alors qu'il persévérait dans ces choses, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je crois qu'il n'y a rien de plus clair dans la parole de Dieu. Si on veut que le Seigneur ajoute des âmes à l'Église, il faut faire ces choses. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement, ou le mot c'est enseignement, ou c'est doctrine. Persévérer dans la saine doctrine. Vous savez qu'on est dans une époque où on entend toutes sortes de doctrines bizarres. Et comment on sait si c'est une bonne doctrine? Simplement, est-ce que c'est marqué dans la Bible? Voilà le meilleur moyen de savoir. Mais c'est pas seulement de savoir que c'est marqué dans la Bible. Le Seigneur nous demande de persévérer. Et le mot persévérer, c'est se dévouer tout entier à une cause. C'est être constamment attentif. C'est donner un soin incessant à la parole de Dieu. Et à son impact dans ma vie. Et à sa réalisation, sa mise en pratique dans ma vie. Est-ce que je crains la parole de Dieu? Est-ce que j'ai cette révérence? J'ai pas peur. Est-ce que j'ai cette révérence? Est-ce que j'ai cet amour profond pour la parole de Dieu? Est-ce que la saine doctrine a la place qu'elle mérite dans ma vie? Parce que ça commence par là. C'est la première étape, mais c'est déjà une des étapes les plus importantes. Est-ce que la parole de Dieu a la place qu'elle mérite dans ma vie? Vous savez que quand Dieu a donné au peuple d'Israël ses ordonnances, il a dit « Je veux leur faire entendre mes paroles » pour qu'ils apprennent à me craindre. Et je crois que quand on apprend les paroles du Seigneur, quand on les connaît et qu'on les met en pratique, alors on apprend la crainte de Dieu. On apprend à le respecter. La crainte, c'est quoi? C'est obéir au Seigneur. C'est comme quand on est dans des conditions favorables, ce matin, quand on est dans le culte, est-ce que c'est facile d'obéir? Ben, c'est facile quand même. C'est facile de prier, c'est facile de chanter. Mais quand on est tout seul dans notre maison, quand on est dans des conditions difficiles, est-ce que c'est pas là le plus important, là où on manifeste le plus la crainte de Dieu? Quand on a des gens qui nous poussent à faire quelque chose de mauvais et que nous on tient bon, c'est là qu'on a la crainte de Dieu. Est-ce que la saine doctrine a la place qu'elle mérite dans notre vie? Vous savez qu'il y a des promesses qui accompagnent ceux qui ont cette crainte. Il y a un proverbe justement dans Proverbe 13:13. Il nous dit, celui qui méprise la parole, il se perd. Mais celui qui craint le précepte, il est récompensé. Est-ce que ça vous intéresse que Dieu vous récompense? Et c'est clair, là aussi, si nous voulons être récompensés de la part de Dieu, il nous faut craindre le précepte. Et l'opposé de cette attitude, c'est de mépriser la parole. Celui qui méprise la parole, il se perd, il ne sait pas où il va, il s'égare, il s'éloigne. Et vous savez que quand quelqu'un s'éloigne dans une forêt, ça peut arriver jusqu'à la mort à un moment donné s'il ne trouve pas de secours du tout. Mépriser la parole, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le mot mépriser, ça veut dire considérer quelque chose comme indigne d'estime. Quand je méprise la parole, ça veut dire que je ne lui accorde pas l'importance qu'elle devrait avoir dans ma vie. Par exemple, je dis « Dieu me demande de ne pas mentir. » Mais moi, je choisis de mentir dans des situations où ça m'arrange. Et là, je méprise la parole. Dieu me demande de ne pas être grossier, mais moi, à un moment donné, je suis énervé, je suis fatigué, et je me permets de dire des paroles mauvaises, grossières. Je méprise la parole. Et je pourrais multiplier les exemples. On a tous commis à un moment donné une action qui méprisait la parole de Dieu. Quand on désobéit à la parole, c'est comme si on la méprisait. Mais le Seigneur est celui qui veut nous montrer l'importance de cette doctrine. Voici sur qui je porterai mes regards, dit l'Éternel. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu. Ce matin, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans l'esprit abattu, le Seigneur est celui qui veut porter son regard sur vous. Mais pas que. Sur celui qui craint ma parole. Le regard de Dieu ce matin et tous les jours de notre vie, il va s'arrêter sur celui qui a la crainte de la parole de Dieu dans son cœur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous voulez la faveur du maire de Moissac? Je ne sais pas encore le nom, j'ai pas. Ça vous intéresse? Bon, peut-être, oui. Je ne sais pas, vous voulez faire construire une maison, vous voulez être pistonné pour avoir un travail. Bon, est-ce que ça vous intéresse d'avoir la faveur de Dieu? Là, c'est quelque chose qui est inébranlable. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Et cela, nous pouvons l'obtenir. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui a compris qu'il fallait, non pas qu'il connaisse juste la Bible, qu'il fallait qu'il la récite du bout des lèvres, non. Celui qui a la crainte, le respect profond de la parole de Dieu dans son cœur et qui choisit, malgré les vents contraires, qui choisit, malgré les difficultés, de dire oui, je veux, Seigneur, obéir. Quelle est votre réaction quand vous lisez la Bible? Ça peut être plein de réactions diverses. On peut être dans la joie, on peut être repris fortement. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus a fait une de ses premières prédications? Est-ce que c'était bien? Vous n'auriez pas aimé être là pour écouter la prédication du Seigneur? Je crois qu'il n'y a personne qui était plus rempli de l'Esprit que le Seigneur Jésus. Et quand il a prêché, vous savez ce qui s'est passé? Dans Matthieu 7, verset 28, il est dit qu'après avoir achevé son discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'il enseignait, non pas comme les scribes, mais il enseignait avec autorité. Il disait, en quelque sorte, les scribes, eux, ils disaient, voici ce qui est marqué dans la Bible, mais ça, voici ce qui est marqué dans l'Ancien Testament, mais voilà ce que je pense que ça voudrait peut-être dire. Et ça convainquait personne. Mais Jésus lui disait, voici ce que Dieu a voulu dire, voici la parole de Dieu pour vous. Et vous lirez Matthieu 5, 6, 7, pour voir tout ce discours qu'il a apporté. Et vous comprendrez que c'est Jésus seul qui peut nous communiquer cette parole et que quand nous prêtons l'attention particulière à la parole de Dieu dans notre vie, alors nous ressentons l'autorité de cette parole. C'est pas l'autorité d'un pasteur, c'est pas l'autorité d'un mouvement, c'est pas l'autorité d'une église même, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Parce que les pasteurs, les mouvements, les chrétiens même, tous nous passons. Qu'est-ce qui ne passe pas dans ce monde ? Qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui, quand on met notre foi dedans, peut nous apporter la vie, si ce n'est la parole de Dieu? Voici pourquoi nous devons, frères et sœurs, persévérer. Il y a des fois où c'est dur, et ça va être de plus en plus dur. Il ne faut pas se voiler la face. Les temps vont être de plus en plus difficiles. Mais il y a une bénédiction particulière pour celui qui choisit de craindre la parole de Dieu. Est-ce que nous allons la craindre ou la mépriser? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tellement importante aussi, et je crois que les quatre points, les quatre bases pour cette église bénie, elles sont aussi importantes les uns que les autres, ces points-là. Persévérer dans la communion fraternelle. Est-ce que vous aimez la communion fraternelle? Est-ce que vous pouvez regarder celui qui est à côté de vous et dire je t'aime de l'amour du Seigneur? Alors, vous comprenez? C'est ça la communion fraternelle. Est-ce que ça se résume seulement au dimanche matin? Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, on se fait la bise, que le Seigneur te bénisse, à dimanche prochain. Est-ce que c'est ça la communion fraternelle? Comprenez que c'est ça, c'est une goutte, mais c'est tellement plus. C'est tellement plus. La communion fraternelle. Le mot communion, ça veut dire tout ça, association, participation, accord profond, union commune, préoccupation mutuelle, attention, soin, soutien, encouragement l'un pour l'autre. Ça veut dire tout ça, la communion fraternelle. Et vous comprenez bien que ça ne peut pas s'exprimer que le dimanche matin, parce que le dimanche matin, on est heureux de se revoir, on a envie de faire la bise aux uns et aux autres, mais on ne peut pas se préoccuper personnellement de chacun. Ça passe par tout le reste de la semaine où nous pouvons prendre soin les uns des autres. Dans le Nouveau Testament, le mot communion, et il est employé 18 fois, 9 fois c'est pour dire la communion avec Dieu, entre Dieu et l'homme. Et 9 fois c'est pour dire la communion avec les frères et sœurs. Des fois on entend des gens qui nous disent « Ah mais Moi, ce qui est important pour moi, c'est la communion avec Dieu. Les autres, qui se débrouillent. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il n'est pas préoccupé par celui qui est à côté de lui? C'est pas possible. Il y a des épîtres tout entières qui sont rédigées dans cette idée-là, que quand on aime, on peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son frère. C'est impossible. Ça, c'est pas le Dieu d'amour qu'on aime, sinon. C'est un autre Dieu. C'est pas le vrai Dieu. Mais quand on aime Dieu vraiment, alors il y a un amour qui se crée. Bon, des fois, on sait même pas comment ça arrive, mais il y a quelque chose, une préoccupation. On a envie de, que notre frère soit bien, qu'il soit bien au milieu de nous, qu'il soit accueilli, qu'il soit là et qu'il ressente l'amour qu'on a pour lui. Quand on parle de communion, on parle de quelque chose qui nous réunit. Qu'est-ce qui nous réunit ce matin? Le fait que le culte est à 9h45, c'est ça qui nous réunit? Parce qu'il y a une réunion programmée? Non. Bien sûr que ça y participe. Mais c'est parce qu'on a la même foi. Dans le même Seigneur. Dans le même sacrifice. Et c'est parce que nous avons tous cru à ce Seigneur-là que nous sommes réunis ce matin. Et parce que nous désirons apporter tous ensemble ce culte de louange qui monte vers le Seigneur. Mais quand nous sommes unis, quand nous sommes en communion avec notre frère ou notre sœur, nous sommes en communion avec son esprit, son âme, et aidez-moi, c'est quoi le troisième? Son corps. Alors son esprit, c'est facile. On est unis par un même esprit, on l'a chanté ce matin. Vous étiez d'accord quand vous avez chanté ce chant? Nous sommes unis par un même esprit, d'accord? Notre âme maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Par exemple, si j'apprends que mon frère est dans la difficulté, à lui donner un petit coup de fil, ou à carrément aller le voir, et à être là, à côté de lui, pour peut-être pleurer avec lui, prier avec lui, parler avec lui, peu importe le besoin qui se présente, je m'occuper de son âme. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça fait partie de la communion de Dieu? Oui, et la communion de Dieu qui s'exprime pour mon frère et ma sœur. Mais on entend parfois des gens qui disent aussi, prier, parler, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout, il ne faut pas qu'on touche à mon portefeuille. On entend des fois, malheureusement. Et c'est sûr qu'il y a eu des dérives, des gens qui demandaient à tout. Hein. Je vous donne cet exemple d'un homme qui était dans une situation où c'était pas clair, il n'avait pas ses papiers, et il demandait de l'argent par-ci, par-là. Mais il demandait de l'argent à un chrétien. Et sans dire, il allait demander de l'argent à un autre chrétien. Et puis sans le dire, il allait demander encore l'argent. Et du coup, il y avait une dizaine de personnes dans l'assemblée à qui il devait de l'argent. Ce qui fait qu'à un moment donné, il avait tellement honte de la situation qu'il est parti de l'église. Est-ce que vous croyez que c'est ça qu'il faut faire? Et surtout, il n'a jamais remboursé. Il a toujours la dette envers les personnes. Alors bien sûr, les gens de l'église ont pardonné. Mais c'est pas cette attitude-là dont je parle. Est-ce que nous voulons assez persévérer dans la communion pour être capable d'ouvrir notre cœur? Oui, quand il y a un besoin. Si notre frère à côté de nous manque de pain, manque de nourriture, manque de vêtements, manque de quoi que ce soit, est-ce que nous allons fermer notre cœur et seulement lui dire « Mais je vais prier pour toi, t'inquiète pas !» Ou est-ce que nous allons dire « Mais ta situation me touche, je veux m'occuper aussi de toi ?» Est-ce que nous allons créer ce contexte? Peut-être qu'il y est déjà, je ne connais pas encore assez les choses. Mais pour avoir cette liberté de dire, mais voilà, je suis dans le besoin. Je veux ouvrir mon cœur. Je viens voir un frère en qui j'ai confiance. Je suis dans le besoin. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on va avoir assez de délicatesse pour anticiper le besoin de notre frère qui est dans la difficulté? Est-ce que c'est spirituel? Vous savez, des fois, on entend des choses bizarres quand on parle avec les personnes, quand on a des entretiens, on entend des choses. Et moi, je réfléchis souvent à ce qu'on me dit. Et des fois, on entend des gens qui nous disent « Ah, mais donner à manger, faire toutes ces choses-là qui touchent le corps, ça, c'est pas spirituel. » Il y a le spirituel et il y a le matériel. Est-ce que vous croyez que c'est pas spirituel, le fait de donner à manger à quelqu'un? Est-ce que c'est pas marqué dans la Bible? Même le fait de donner un verre d'eau, c'est profondément spirituel, Jésus en a parlé. C'est comme si on le faisait au Seigneur. Le fait de donner un verre d'eau. Vous imaginez? quand vous donnerez le prochain verre d'eau dans la semaine, vous allez faire super attention. Mais oui, nous on est là à faire nos séparations. Nous on est là à dire, ouais, ça c'est spirituel, ça c'est matériel. Mais pour le Seigneur, quand quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, quand quelqu'un est né de nouveau, surtout, tout ce qu'il fait devient spirituel. Ou ne l'est pas si on choisit de vivre par notre ancienne nature. Mais même le fait de donner un verre d'eau, d'acheter un habit pour quelqu'un, le fait d'aller porter une personne, est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir porter quelqu'un qui n'a pas son moyen de locomotion? Imaginez un instant. Imaginez, j'ai un scoop. Le Seigneur Jésus est revenu, il est à la gare de Castelsarrasin. Il faut que je trouve quelqu'un pour aller le chercher. Est-ce qu'il y aurait des volontaires? Bon, moi le premier, je laisserai quelqu'un d'autre prêcher, j'irai le chercher tout de suite. Et qui ne ferait pas la même chose? Qui dirait, bon, mais après tout, qui se débrouille? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que nous avons assez de sensibilité pour voir dans notre frère, dans notre sœur, l'image du Seigneur Jésus qui se reflète? Est-ce que le Seigneur Jésus n'est pas mort aussi pour lui? Et il n'est pas devenu par la foi un enfant du Seigneur. Qu'est-ce qui se passerait si je mépriserais un des enfants du Seigneur? Qu'est-ce qui se passerait devant Dieu? Voilà pourquoi nous devons persévérer. Des fois, on entend encore des personnes qui disent « Moi, mais j'en ai assez avec ma famille, j'en ai assez avec mon travail, j'ai assez de choses à faire, je ne peux pas m'occuper des autres. » Eh bien, c'est le moment de réfléchir. Est-ce que, si c'était le Seigneur, est-ce que tu t'en occuperais pas? Et quand on réfléchit comme ça, la réponse, elle vient toute seule. Dieu ne pourra bénir qu'une église qui choisit de vivre véritablement dans la communion, dans cette communion concrète et pratique. Vous savez que dans la Bible, le mot communion, quand il est employé, ça signifie à plusieurs endroits, ça signifie la contribution, cette récolte d'argent qui était faite pour les plus pauvres à Jérusalem. Par exemple, je lis ce verset en modifiant un petit peu, en mettant le mot communion, qui a été traduit d'une autre manière. La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution ou une communion en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Ça voulait dire, cette communion, ça parlait d'argent. Dans notre passage, les Macédoniens nous demandent avec de grandes instances la grâce de communier au service en faveur des saints. Ce matin, je ne fais pas un appel d'argent, faut faire la différence. Mais je dis, est-ce que ma communion avec mon frère et ma sœur ne se manifeste pas de manière pratique? Si c'est pas le cas, il faut que ça le devienne. Ce matin, je vous demande pas de mettre de l'argent dans la corbeille, ça n'a rien à voir avec ça. Ce matin, je vous demande, est-ce que votre cœur est ouvert pour que, si vous avez un petit peu d'abondance, bénir la personne qui est à côté de vous et dans la pauvreté? C'est ça que je vous dis ce matin. Parce que si vous avez ce cœur-là, si vous voulez que l'Église soit bénie, le Seigneur va la bénir, parce qu'il va voir cette attitude de cœur. Persévérez dans la communion fraternelle, persévérez dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est un autre nom qu'on a donné aussi à la Sainte Cène, ce repas que nous allons prendre juste après. Il y a un verset qui est là sur mon cœur, qui réunit un petit peu ce que je viens de dire sur la communion. La communion, c'est les choses qui nous unissent, et une des choses qui nous unit, c'est le sacrifice de Jésus, le repas du Seigneur qui est là. Il est fait, il a été institué simplement pour nous rappeler ce sacrifice merveilleux. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est la parole qui le dit. Hein, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? La Sainte Cène nous rappelle ce sacrifice. Comment est-ce que nous allons prendre ce repas? Vous savez que la Bible nous encourage à nous éprouver. Et nous encourage à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes et à réfléchir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre vie, que ça soit quelque chose de personnel ou que ça soit encore plus quelque chose qui concerne mon frère ou ma sœur. Si je me rappelle avec profondeur, sérieux, solennité le sacrifice de Jésus, est-ce que je prends le pain et le vin à l'unisson avec mon frère et ma sœur, est-ce que je peux garder une rancune? Est-ce que je peux garder de l'amertume? Est-ce que je peux garder une pensée mauvaise envers mon frère et ma sœur? Oui, je peux. Ce matin, je vous dis que oui, c'est possible. Mais je joue la comédie. Je suis comme les pharisiens. Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites. Si je prends le pain et le vin et que je reste dans le non-pardon dans mon cœur, je joue la comédie devant Dieu. Les hommes, devant les hommes, on n'y voit que du feu. Mais le plus important, c'est la gloire des hommes ou c'est la gloire de Dieu? Peut-être que tout à l'heure, ce moment va être l'occasion pour quelqu'un de dire « Mais oui, moi je prends le pain et le vin, mais je n'ai pas réglé cette histoire avec telle personne. » Oui, peut-être ça s'est passé il y a des années, mais je n'ai pas demandé pardon. Est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir une église où il n'y a pas de, où il y a un non-pardon qui demeure? Est-ce que c'est possible? Non, parce que Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu veut ajouter qui est le plus intéressé dans notre monde pour ajouter des âmes à son église, si ce n'est Dieu lui-même en premier. Mais il ne pourra le faire que là où une église met la base. La base, c'est de prendre ce pain et ce vin, de se souvenir de ce sacrifice et de se souvenir que quel que soit ce que mon frère ou ma sœur a pu me faire, il n'y a rien de plus grand qui remplace le sacrifice de Jésus. Jésus est mort à la croix pour lui. Et s'il l'a pardonné, est-ce que moi, je ne peux pas le pardonner? Si je n'ai pas la force, il y a des fois on nous dit « j'ai pas la force de pardonner ». Ben c'est normal, on est des humains. Celui qui peut vous donner la force pour pardonner, c'est Dieu. Et le moment de la Sainte Cène, quand vous allez prendre ce pain et ce vin, c'est le moment où vous pouvez dire au Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas être en décalage entre ce que je fais et ce que je pratique dans ma vie. Est-ce que vous croyez que le Seigneur ne va pas déverser sa force? Fortifiez-vous par sa force toute puissante, nous dit la parole de Dieu. Le moment de la Sainte Cène, c'est ce moment-là où je peux me réconcilier avec mon frère, je peux être dans la paix avec Dieu, qu'il n'y ait plus de tâches sur mon fond d'écran spirituel, mais que ma vie soit totalement blanchie. Mais les commentateurs nous disent que le repas du Seigneur, enfin plutôt la fraction du pain, ça concerne pas seulement la Sainte Cène. C'est quelque chose qui allait beaucoup plus loin. Ça concernait ces moments où les chrétiens se réunissaient pour manger ensemble. Est-ce que vous aimez inviter à votre table un frère, une sœur, et parler, partager, raconter votre témoignage, raconter une expérience que vous venez de faire? Est-ce que vous aimez prendre ce temps de communion? Il y a quelque chose qui se passe quand on prend un temps de communion particulier avec notre frère et notre sœur, où il peut nous ouvrir son cœur et où on peut parvenir à se commettre mieux. Est-ce qu'un repas peut-il être un des fondements de l'Église? Ça paraît tellement, encore une fois, bassement matériel, ces choses-là. Mais c'est tellement important. Je vous donne ce témoignage qui est proche de moi. C'est un cousin que j'avais. Un cousin qui a été, pour une raison, pour le travail, je crois, il a été muté dans la campagne, une toute petite église avec des chrétiens, la moyenne d'âge, c'était 70 ans. Il était là dans l'église avec sa famille. Il avait, à cette époque, il avait un enfant, sa femme était enceinte. Et vous vous imaginez la joie le dimanche quand ces personnes ont appris que ce couple allait s'installer. Vous imaginez, le couple qui arrive, il y a un enfant, un deuxième à venir. Et vous savez ce qui s'est passé au bout d'un an? Le dimanche matin, il y a eu plein de saluts, que Dieu vous bénisse, on est content que vous soyez là. Et au bout d'un an, j'ai eu mon cousin. Et je l'ai écouté, il m'a parlé avec tristesse. Ils sont partis de cet endroit. Il m'a dit, pas une fois une personne nous a invité à manger. Pas une fois une personne a pris des nouvelles quand ma femme était enceinte et quand elle a accouché. Pas une fois. Vous imaginez? Un repas. Qu'est-ce que c'est un repas? Qu'est-ce que c'est partager quelques nourritures? C'est ça la fraction du pain, partager son pain. Mais là, ça montrait que cette église qui priait pour que des âmes se rajoutent, elle faisait tout l'inverse de ce qu'elle priait. Seigneur, ajoute des âmes. Il y a des âmes qui viennent, une famille qui vient. Ah, mais je ne l'accueille pas. Je ne manifeste pas mon intérêt pour elle. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va envoyer des âmes? Ben non. Le Seigneur, par contre, va envoyer des âmes envers ceux qui choisissent de partager du temps. Ben oui, des fois ça coûte un peu de se dévoiler dans notre maison, d'inviter les gens chez nous, ça coûte quelque chose. Pas seulement financièrement, ça coûte quelque chose, ça prend de notre temps, parce que quand on a quelqu'un à notre table, on prend un peu plus de temps. Mais c'est tellement bon, c'est tellement bénissant. Moi je me réjouissais quand j'avais l'occasion d'aller voir peut-être des anciens qui ont connu le frère, comment il s'appelle, sur Toulouse, Ah, j'ai perdu le nom maintenant. Le frère qui a ouvert toutes les églises sur Toulouse. Aidez-moi les anciens. Monsieur Roux. Voilà. Il y en a qui l'ont connu. Ça doit remonter à quelques années en arrière. Mais j'allais manger chez des anciens comme ça qui me parlaient de ces choses merveilleuses qui se sont passées, où le frère Roux, il a établi plein d'églises. Douglas Scott était venu auparavant, qui avait fait un sacré travail. Et puis, on voyait comment le Seigneur a conduit toutes choses pour que dans notre région tout entière, l'évangile puisse se développer. C'est merveilleux, mais si j'étais pas allé manger chez cette personne, j'aurais jamais su. Et il y a des fois, il y a des choses qu'on dit le dimanche matin, mais c'est tellement... On peut pas tout dire le dimanche. Mais il y a des fois quand on entre dans la maison de la personne, quand on partage cœur à cœur. Vous savez ce qui s'est passé? À quel moment les disciples d'Emmaüs ont compris que Jésus, que cet homme-là, c'était Jésus? C'était au moment où il a fractionné le pain. C'est à ce moment-là qu'ils ont tout compris. Et eux qui étaient fatigués, qui voulaient s'arrêter pour dormir, ils sont partis tout de suite. Prévenir, ils ont refait le chemin en sens inverse pour aller à Jérusalem dire aux apôtres qu'ils avaient vu le Seigneur, qu'il était ressuscité. Ils étaient restaurés, fortifiés. Est-ce que vous croyez pas que même au travers d'un petit repas, je peux être un moyen de fortifier mon frère, fortifier ma sœur? Ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières. Je finis avec ce dernier point. La quatrième base pour que l'Église soit bénie, c'est d'être persévérant, constant dans les prières. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse une réunion de prière du dimanche matin à 6 heures jusqu'au dimanche matin suivant à 6 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas ça que ça veut dire. Persévérer dans les prières, ça nous parle déjà de la différence qu'il y a de la sorte de prière qu'on peut faire au Seigneur. Il y a les supplications, il y a les requêtes qu'on peut faire monter vers le Seigneur. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire, l'adoration, la louange, toutes sortes de prières qu'on peut faire envers le Seigneur. Mais ce matin, je voudrais pas insister dans ces points. Ce matin, je voudrais insister sur deux choses. Persévérer dans les prières, ça veut dire d'abord, moi dans ma vie, est-ce que je persévère dans la prière? Moi dans ma vie, est-ce que j'ai une vie de prière? Parce que c'est bien que je prie que le Seigneur ajoute des âmes. Mais si moi-même j'ai pas de vie de prière, moi-même je ne suis pas fondé dans ces bonnes valeurs. Vous savez, les hommes se sont battus, ont versé leur sang, ont fait toutes sortes de guerres pour être indépendants. Il y a eu toutes sortes, dans l'histoire nous apprend qu'il y a eu toutes sortes de guerres qui sont passées pour que les gens puissent signer un jour l'indépendance. Et ils sont là, ils se réjouissent, il y a même des jours nationaux qui célèbrent ces dates. Bon, je ne suis pas contre. Mais moi je voudrais être de ceux qui se célèbrent notre dépendance envers Dieu. Et la prière, c'est le moyen de dire, Seigneur, je suis dépendant de toi. Je sais que tout ce que je peux faire, même quand je prêche, même quand je fais chanter, même quand je fais quelque chose dans l'église, si je le fais sans la prière, ça sert strictement à rien. Même si une personne répète les mêmes paroles que je répète ce matin, mais ne le fait sans prière, ça sert strictement à rien du tout. Ce qui fait toute la différence, c'est parce que je l'aurai présenté à Dieu et parce que Dieu met son approbation. C'est ça qui fait la différence. Combien c'est merveilleux d'avoir compris que on est dépendant. C'est combien c'est merveilleux de pas avoir ce slogan Yes We Can. Vous connaissez ce slogan? Barack Obama, quand il a fait les élections, c'était le slogan de la campagne. Yes We Can. Oui, nous pouvons. Mais moi, je voudrais dire totalement l'inverse. Non, on peut pas. Mais Seigneur, toi, tu peux. C'est ça mon slogan. Seigneur, nous, on est incapables. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire avec lui? Si ce n'est par la prière. Quelqu'un qui a une vie de prière personnelle, quelqu'un qui choisit aussi d'avoir cette vie de prière commune avec les frères et sœurs, afin de pouvoir partager les fardeaux les uns des autres, afin de pouvoir prier pour un renouveau dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a tous besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit? Et quand je lis la parole, je vois les promesses du Seigneur qu'il dit qu'à la fin des temps, il y aura une visitation particulière avant que le Seigneur revienne. Le Seigneur veut bénir son Église avec abondance parce qu'il veut tellement que des hommes et des femmes puissent être sauvés, touchés, convertis, transformés, repentis. Alors le Seigneur veut déverser son onction, comme au premier jour. Mais est-ce qu'il le fera si on ne prie pas pour ça? Est-ce qu'il le fera malgré nous? Non. Quand tu regardes dans le livre des Actes, et je finis avec cette pensée, dans le livre des Actes, à un moment donné, l'Église, il est dit qu'elle ne cessait d'intercéder, de prier pour Pierre. Vous savez où il était, Pierre? En prison. L'Église ne cessait d'intercéder pour Pierre. Il était en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une délivrance miraculeuse. Dieu a dépêché un ange pour aller secourir son serviteur dans la prison. Et lui, il croyait que c'était une vision. Et en fait, non, c'était la réalité. Il était en train de sortir. Les portes s'ouvraient toutes seules. Les gardes, on ne sait pas s'ils étaient endormis ou quoi. En tout cas, il a pu sortir librement. Et même, il allait cogner à la porte. Les gens qui priaient, ils étaient même pas sûrs que Dieu avait entendu. Et pourtant, il était là. La prière avait été exaucée. Est-ce que c'est pas bon de prier pour la liberté des serviteurs de Dieu? Vous savez, on n'est pas forcément dans des prisons physiques, mais il y en a dans le monde, malheureusement. Et il faut prier pour les chrétiens qui sont persécutés, qui sont en prison à cause de leur foi. Mais je pense à tous ces serviteurs de Dieu qui sont dans des prisons spirituelles, qui font qu'ils n'apportent plus la parole que Dieu voudrait qu'ils apportent, qui n'apportent plus ce message que Dieu voudrait qu'ils apportent parce qu'ils se sont enfermés dans des murs. Est-ce que c'est pas important de prier que nos serviteurs, et que pour moi aussi, que le Seigneur puisse nous utiliser avec toute la liberté pour que nous puissions apporter, communiquer sa parole? On va fermer les yeux. Quatre bases, toutes simples, quatre fondements pour une église bénie. Ce matin, si nous voulons manifester au Seigneur la crainte de notre cœur face à sa parole, saisissons ce verset et laissons le Seigneur parler à notre cœur. Quatre choses toutes simples. Est-ce que vous croyez que si on les met en pratique, le Seigneur ne va pas ajouter des âmes? C'est obligé, c'est sa parole, c'est lui qui s'engage. C'est lui qui a signé en bas du contrat. Combien la faveur de Dieu vaut mieux que celle des hommes? Mon frère, ma sœur, peut-être que tu as manqué de persévérance dans tel ou tel domaine. Le Seigneur n'est pas celui qui te juge. Le Seigneur est celui qui te conseille. Le Seigneur est celui qui te bénit et qui te donne la force pour mettre en pratique sa parole. Mais si nous pouvons mettre en pratique toutes ces choses, si nous pouvons avoir cette communion, si nous pouvons partager nos repas ensemble, si nous pouvons prendre ce pain et ce vin, si nous pouvons prier, si nous pouvons lire la parole ensemble, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Lui, Jésus est le fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Est-ce que nos vies sont fondées en Jésus? Est-ce que nos vies sont établies sur le roc? Ce matin, laissons l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs. Éternel, je te bénis encore. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, parce que ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas une organisation particulière sur laquelle tu amènes ta bénédiction. Mais c'est sur ta parole. C'est sur des hommes et des femmes qui ont la foi en ta parole. C'est sur des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans ce que tu nous as laissé entre nos mains. Seigneur, nous voulons que notre Église soit bénie. Nous voulons que nos propres vies, nous voulons que nos familles, nous voulons que notre Église et les gens qui nous entourent même soient bénis. Seigneur, si nous voulons être bénis, ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais c'est pour que ton nom soit glorifié dans cette ville et aux alentours. Aussi, nous te demandons de graver ces choses dans nos cœurs, de nous aider, Seigneur, à les mettre en pratique, de nous aider à avoir cette crainte profonde, ce sérieux, d'être frappé même de ta doctrine, d'être, Seigneur, marqué dans notre cœur par ta parole, afin que jour après jour, nous puissions la considérer à la place qu'elle mérite. Seigneur, nous te présentons ce repas que nous allons prendre. Nous te demandons, Éternel, de permettre que dans ces instants, tu puisses, oui, nous éprouver. Nous voulons nous-mêmes te laisser nous éprouver. Nous voulons nous-mêmes te laisser sonder nos cœurs. Sonde nous, Seigneur. Sonde nos cœurs, éprouve nos pensées. S'il y avait, Seigneur, quelqu'un qui était dans le non-pardon, oh, donne-lui la force de renoncer à ces choses. Seigneur, donne-lui de choisir de marcher dans tes voies pour que ta bénédiction demeure sur chacun. Amen.